Je suppose que vous rentrerez toutes à l'école normale l'année prochaine.
Non, moi je rentrerai chez moi.
Comment vous appelez-vous ?
Claudine.
Un été avec Colette.
J'ai beaucoup entendu parler de vous.
J'avoue que mon instruction n'a pas dépassé l'école primaire. Vous n'allez pas me mépriser, j'espère bien que non.
Par Antoine Compagnon. Tradition.
Colette au travail, comment travaillait-elle ?
Elle travaillait 3-4 heures tous les après-midi.
Maurice Goudequet, mari de Colette.
Elle poussait un grand soupir avant de commencer parce qu'elle savait qu'elle ne lâcherait jamais une page en disant « c'est assez bon comme ça ». Elle travaillait comme un ouvrier français, comme un luthier. Je l'ai souvent comparé à un luthier.
L'athlète trapue au sein nu de la vagabonde s'était métamorphosée en une digne vieille dame ingambe, paralysée par l'arthrite, sortant peu de son premier étage avec vue sur le jardin du Palais Royal. Loin de sa réputation sulfureuse, elle était assimilée à la vieille France, au terroir.
« Depuis l'enfance, je connais le vin français et je le tutoie »,
annonçait-elle dans une publicité pour les vins Nicolas vers 1940. L'image de la Colette traditionnaliste date de la guerre et de ses conseils de bonne femme dans Paris Soir en 1940 et 1941. Mais le tournant avait été pris plus tôt, en matière de gastronomie d'abord. En 1929, dans Vogue, elle dénonçait le snobisme de la cuisine de grand-mère, les faux affiqués provinciaux, les fines herbes, la cuillerée de cognac ou le verre de calvados qui dénature le bœuf braisé, le veau à la crème, les civets et poulets immémoriaux. Elle plaidait pour l'authentique lièvre à la royale dont 60 gousses d'ail ont coopéré à la perfection mais qui n'a pas goût d'ail. Elle prônait l'orgueil gastronomique de France, mis à mal au temps de la soie sans soie, de l'or sans or, de la perle sans huître et de Vénus sans chair. À cet ancien régime authentique, Colette prit du poids.
Rosven, tout grésillant de chaleur, est un endroit radieux. Il y a des crapauds aussi larges que ma fesse,
écrit-elle à une amie dès 1923 et à Marguerite Moreno.
Je me suis pesée, presque 81 kilos.
Voilà ce que lui coûta le respect du passé, la fidélité à la tradition, dans la langue comme en cuisine.
Fallait-il que nous l'eussions laissé mourant sur le chemin ?
Colette s'extasie sur cette concordance des temps chez une paysanne de Provence.
Une si belle phrase qui sent son XVIIe siècle fleurit pourtant ici sur des lèvres illettrées. Une journalière provençale avait trouvé sur la petite route devant ma porte il y a 3 ans et tous deux gisants, un homme de ci, une bicyclette de là. À grand renfort de compresse et de « Eh, le pauvre !» Et peu chère, bonne mère de Jésus. Elle avait soigné le jeune homme, d'ailleurs ivre, qui pensait, se releva, enfourcha sa bicyclette et s'en alla sans remerciement.
Colette, qui répondait à une enquête en 1911,
« J'ignore si le latin aide, comme vous dites, à la formation d'un écrivain français. Je ne sais pas, moi. Je n'ai jamais songé à cela. »
Elle réagit contre les tics linguistiques modernes. Colette soutenait non seulement qu'elle n'avait jamais voulu écrire, mais encore que les mots ne lui venaient pas aussi naturellement que les imparfaits du subjonctif de la journalière provençale.
Paul Géraldi.
Les mots lui faisaient peur. Quand elle disait « la page écrite, enlevez les beautés », ça voulait dire « enlevez tout ce qui n'est que verbal ». Et dans ses nouvelles, dans ses romans, les répliques qu'elle met dans la bouche de ses personnages, ce sont des répliques de théâtre. Ce sont toujours des phrases extrêmement parlées, dites, jamais écrite. Pourquoi ces personnages sont si vivants ? Ils sont entendus, sentis, vus, respirés.
Elle n'avait pas de facilité, elle ne savait pas ce que c'était qu'écrire au courant de la plume.
C'est une langue bien difficile que le français. À peine écrit-on depuis 45 ans qu'on commence à s'en apercevoir.
La cuisine, la langue française, Colette les aura maintenues.